D'ici la fin du 21e siècle, plus de la moitié des 6500 langues qui sont parlées aujourd'hui risquent tout simplement de disparaître. C'est en moyenne 25 langues qui s'évanouissent chaque année, faisant de la diversité linguistique un domaine particulièrement fragile. Pourquoi des pans entiers de culture et de mémoire déclinent aussi rapidement? Quels sont les moyens de lutter contre la disparition des langues? Colette Greenwald, Claude Agege, Nicolas Tournadre, trois linguistes de terrain sont pour la première fois ensemble derrière le micro et ils sont les invités de la Tête au Carré dans quelques instant avec vos messages et vos questions sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. La pollution directement mise en cause dans la malformation génitale du nouveau-né, c'est aujourd'hui à la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, elle fait beaucoup de bruit depuis deux jours cette publication. La pollution aux perturbateurs endocriniens favoriserait les malformations du pénis chez les jeunes garçons. On en parle dans un instant à la une de la science avec vos questions et nos invités.
Et c'est Violaine Ballet qui est aux commandes de l'émission. Dossier préparé par Anne-Cécile Perrin et Thomas Delosier.
Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La disparition des langues dans le monde, c'est donc dans un instant le dossier de la Tête au Carré pour comprendre les raisons, les conséquences de ce phénomène. Trois linguistes pour en parler, Colette Greenwald, Claude Agege et Nicolas Tournadre. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Ravi
Bonjour.
De vous accueillir. Colette Greenwald, est-ce que pour la situation des langues, on peut parler aujourd'hui d'extinction de masse comme pour les organismes vivants?
Oui, en fait, les chiffres sont beaucoup plus catastrophiques du côté des langues, beaucoup plus élevés que pour les mammifères, et on ne s'en rend pas compte, on le voit moins, il y a moins de publicité, mais la catastrophe est beaucoup plus importante.
Ouais, on peut quasiment parler d'une biodiversité linguistique, hein, aussi, on le fera certainement ensemble. Claude Agege, est-ce qu'une langue orale est aussi solide qu'une langue écrite, hein?
Beaucoup croient que non, et la réponse pourtant est oui. La raison en est très simple, c'est qu'il existe une transmission de littérature orale, et très souvent sur le terrain, mes collègues et moi-même, nous en avons très souvent éprouvé les résultats, les gens transmettent des contes, des récits, des mythes d'origine de leur tribu, parfaitement fidèlement, depuis des siècles et des siècles. En d'autres termes, il n'est pas vrai. Certes, l'écrit fixe et par conséquent donne la solidité d'un objet que l'on peut reprendre avec son support. D'abord, les supports sont évanescents. Nos supports d'aujourd'hui, qui ne sont plus vraiment l'écrit ou la feuille, mais qui sont l'audiovisuel ou les DVD, sont peut-être aussi précaires que les supports d'autrefois. Tandis que l'oral, c'est quelque chose qui, en soi, est évanescent, selon le fameux proverbe latin sur les paroles qui s'envolent, mais qui est transmis. Et la transmission, c'est capital. J'en profite pour dire, bien que ce soit une faute de plan, car c'est pas encore votre question, qu'une des raisons fondamentales, pardonnez-moi de dire ça déjà, c'est un autre sujet, connexe, une des raisons fondamentales de la mort des langues, c'est le défaut de transmission des parents aux enfants.
Et on en reparlera avec vous d'ici quelques minutes, Claude Agege. Nicolas Tournadre, est-ce qu'il y a des langues qui reviennent en force quand même aujourd'hui dans ce constat un peu sombre là que j'ai brossé dès le sommaire?
Il y a des langues qui peuvent bien sûr reverdir et retrouver de la vigueur, mais ça dépend de tas de paramètres, de paramètres sociologiques, politiques, etc. Mais ce sur quoi il faut vraiment insister, c'est que il y a des langues qui peuvent même apparaître, mais lorsqu'une famille de langues, parfois un isolat disparaît, il disparaît pour toujours. C'est-à-dire que là, il y a environ 300 familles qui n'ont pas de racines communes. Lorsqu'une de ces familles s'éteint, certaines familles sont composées de très peu de langues, eh bien, lorsque ces langues disparaissent, c'est l'ensemble de la phonologie, de la grammaire, de tout ce qui est véhiculé par la langue, de la cognition, qui disparaît avec cette disparition-là.
On se retrouve dans un instant pour en parler et puis comprendre évidemment le travail que vous menez tous les trois en tant que linguistes de terrain. Les messages et les questions arrivent sur le site de la Tête au Carré. Et à la une de la science aujourd'hui, une étude alarmiste qui fait beaucoup de bruit depuis maintenant un peu plus de 24 heures. L'exposition des parents aux perturbateurs endocriniens favoriserait fortement les cas de malformations génitales chez les nouveau-nés garçons.
En fait, l'étude, elle a porté sur les malformations de la verge du petit garçon. Cette malformation, elle s'appelle l'hypospadias, c'est-à-dire que l'urètre, le tuyau qui amène les urines, n'est pas complet. Et à la place d'uriner par le bout de la verge, les enfants urinent par-dessous. Il y a de nombreuses études qui ont suspecté que les pesticides ou que les autres perturbateurs endocriniens, ces substances chimiques qui vont interférer avec les hormones, puissent participer.
Et c'était la voix de l'urologue Nicolas Calfa qui signe avec vous, Charles Sultan, cette étude donc dans la revue European Urology. Bonjour à vous.
Bonjour monsieur.
Vous êtes professeur au service d'endocrinologie pédiatrique du CHU de Montpellier, puis dans ce studio pour commenter votre travail, notre médecin chroniqueur Dominique Dupagne. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Charles Sultan, les hommes et les femmes exposés à des détergents, des solvants et à des pesticides auraient 3 fois plus de risques donc de donner naissance à des petits garçons souffrant de malformations génitales. Ça, ce sont les conclusions de votre travail. Hein.
Oui, tout à fait. J'aurais simplement aimé préciser la force du travail, mais si vous me laissez quelques secondes, je me permettrai de le faire.
Eh bien, faites-le, absolument.
Eh bien, je crois qu'il existait jusque-là des données contradictoires sur l'impact de l'environnement sur les malformations génitales. Nous avons nous-mêmes conduit un travail il y a 10 ans dans le cadre d'un projet européen. La force donc de ce travail qui s'est étalé sur 5 ans reposait sur 5 paramètres. La première, la taille de la série, 300 nouveau-nés hypospades et l'existence d'un groupe contrôle. Deuxièmement, au caractère prospectif de l'étude et non pas rétrospectif avec tous les biais. Troisièmement, nous nous sommes limités à l'hypospadias isolé et non plus associé à un micropénis ou à une cryptorchidie, c'est-à-dire un testicule non descendu. Quatrièmement, nous avons éliminé la majorité des facteurs génétiques et donc nous avons séquencé pour ces 300 patients les gènes impliqués habituellement dans le développement d'un hypospadias. Donc un travail de génétique moléculaire considérable. On pouvait donc être capable de considérer ces hypospadias comme idiopathiques, c'est-à-dire non génétiques. L'hypothèse environnementale a été soulevée et nous l'avons validée par une matrice profession-exposition.
Donc là, vous nous avez décrit hein, vraiment toute la méthodologie de votre travail.
Et d'ailleurs, oui.
Et pourtant, Dominique Dupagne, cette étude vous pose problème. Pourquoi ?
Oui, alors en préambule, je précise que je n'ai aucun lien avec l'industrie des pesticides ni chimiques, que je rêve d'un monde sans produits chimiques, sans pesticides, que je fais du compost sur ma terrasse, que je ne circule qu'à vélo et que je préfère les produits bio. Ça, c'est pour éviter les conflits d'intérêts, en tout cas les procès d'intention.
Je m'en réjouis, monsieur.
Voilà, et donc, parce qu'il y a beaucoup malheureusement de conflits d'intérêts dans ces affaires. Et donc, moi j'ai deux problèmes en fait. J'ai un problème intrinsèque sur l'étude elle-même et j'ai un problème sur la médiatisation de l'étude. Sur l'étude elle-même, sur le contenu scientifique, vous avez deux groupes dans lesquels vous avez, dans un des deux groupes, 2 fois plus de prématurés, c'est le groupe des hypospades. Or, il se trouve que la prématurité est un facteur connu pour provoquer les hypospades. Et donc, comment est-ce que vous pouvez comparer d'autres facteurs environnementaux alors que vous avez déjà ce facteur majeur qui diverge dans les deux échantillons? Et ensuite, le principal perturbateur endocrinien connu, je parle des connus, pas des présumés, parce que les autres sont souvent présumés, c'est le soja. Or, le soja n'est pas présent dans les produits surveillés ou étudiés dans cette étude. Est-ce qu'il y a une raison? Enfin, il y en a, bien sûr, mais pourquoi est-ce que vous ne l'évoquez pas dans la publication?
Alors, Charles Sultan, vous répondez à ces deux points?
Alors, premier point, nous avons essayé d'homogénéiser les groupes. Et en termes de prématurité, les données ne sont pas aussi univoques que celles que vous semblez le dire. La prématurité est un facteur de risque pour la cryptorchidie, mais pas autant pour l'hypospadias.
Donc, alors, est-ce que vous pouvez juste nous éclairer, s'il vous plaît, parce que là, vous parlez un jargon que nous ne comprenons pas.
La cryptorchidie étant la migration testiculaire, on sait qu'elle apparaît en fin de gestation et chez les prématurés, il y a un pourcentage d'enfants cryptorchides que l'on observe. C'est un phénomène qui est connu et c'est la raison pour laquelle la cryptorchidie ne doit pas être un facteur pris en compte dans l'évaluation de la pollution environnementale. Donc ça, c'est un point. En revanche, la prématurité n'est pas considéré, et j'attends qu'on m'en apporte des preuves, je suis prêt à faire amende honorable s'il y a une erreur méthodologique, mais la prématurité ne représente pas un facteur déterminant dans la malformation hypospadias.
Là, vous n'êtes pas d'accord du tout, apparemment, Dominique Dupagne.
C'est une malformation qui survient très précocement, très précocement. Pendant la fenêtre de sensibilisation, c'est-à-dire les premiers mois de la vie. Donc rien à voir avec la maturation fœtale.
Et sur le second point, alors, pour répondre à Dominique Dupagne?
Alors, second point, c'est la première fois qu'une étude aussi solide est publiée dans un domaine où les données sont extrêmement contradictoires, dans une région où la pollution est l'un des facteurs de risque les plus importants. Et c'est la première fois qu'un travail a été publié dans une revue d'impact facteur aussi élevé qui est l'impact de 12,5. La médiatisation, la cellule de communication a considéré dans le droit ligne de nos études sur environnement et santé qu'il fallait en faire état auprès de la presse. Et voilà pourquoi je suis engagé très fortement en tant que pédiatre endocrinologue dans la défense de l'environnement et dans la protection du fœtus. C'est le seul combat, je n'ai aucun autre intérêt si ce n'est celui de la protection de la femme enceinte. Voilà pourquoi nous avons signé avec Gérard Bapt, il y a 2 ans, l'appel de Montpellier. Et voilà pourquoi je participe aux différents PNSE, groupes d'experts, pour tenter d'apporter notre contribution, non plus à partir de données théoriques, mais à partir d'observations cliniques.
Allez, une dernière question.
Oui, la question que tout le monde se pose, d'ailleurs, je vais la poser à Dominique Dupagne. Quand on est agriculteur, femme de ménage ou employé d'usine, donc on est exposé, faut-il, oui ou non, s'inquiéter des risques de malformation de nos enfants?
Pour le moment, quand on exerce ces professions, on est exposé déjà, encore une fois, un petit peu de naissance, une prématurité, et de là à extrapoler sur des produits d'environnement, on peut l'envisager, mais c'est pas pour rien qu'il y a un point d'interrogation dans le titre original de la publication scientifique, qui n'est pas « les facteurs environnementaux favorisent l'hypospadias », mais « est-ce que ces facteurs favorisent l'hypospadias ?» Parce qu'encore une fois, on peut pas considérer que cet article apporte une vraie démonstration. C'est une hypothèse, et cette médiatisation, parce que la cause est bonne, parce que moi aussi, je pense bien sûr qu'il faudrait moins de pollution et moins de pesticides, me paraît de nature à inquiéter, et c'est le cas maintenant toutes les semaines quasiment, le public. Alors certes, il y a un côté militant, mais on fait de la science, et moi en tant que chroniqueur scientifique, je suis là pour permettre au public, aux auditeurs, de reconnaître ce qui est vraiment important et ce qui l'est moins. Et moi, je suis désolé, cette étude pour moi est une étude qui pose des hypothèses, mais qui n'emporte pas la conviction.
Allez, Charles Sultan, le mot de la fin, pour conclure rapidement, s'il vous plaît.
Oui, alors je me permets d'ajouter 3 choses, parce que là c'est un peu plus direct. Mon équipe a publié 450 papiers. Deuxièmement, j'ai reçu le prix mondial d'endocrinopédiatrique sur des bases scientifiques. J'ai présidé le conseil scientifique de l'université de la faculté de médecine de Montpellier. Donc, les données scientifiques, nous savons les analyser. Et quand vous avez un risque relatif de 11 de l'impact de la pollution sur l'hypospadias, quand vous considérez que dans les méta-analyses, dans les analyses de Cochrane, les Cochrane databases, à partir de 1.1, on retient la signification d'un travail, nous sommes à 10.9, vous avez le droit de douter. Dante disait, plus que penser, douter me plaît. Soyez dans bien.
Voilà, il doute Dominique Dupagne. En tout cas, merci pour vos explications, Charles Sultan, à l'occasion donc de la publication justement de votre travail dans cette revue European Urology. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Axel, on se retrouve demain pour une nouvelle une.
Oui, demain et celle d'aujourd'hui, vous pouvez tous la réécouter en podcast comme toutes les unes
sur franceinter.fr. Allez, et puis en bref, dans le reste de l'actualité, des chercheurs américains ont découvert de nouvelles branches du système lymphatique. Les vaisseaux en question sont logés à l'arrière du crâne et relient directement le système lymphatique avec le cerveau. Jonathan Kipnis, qui est à l'origine de la découverte, se dit très surpris parce que tout le monde pensait qu'on en avait fini avec la cartographie du corps il y a 50 ans. Ces nouveaux canaux seraient primordiaux dans la détoxification du cerveau, permettant de prévenir les maladies dégénératives comme Alzheimer. La grotte de la persistance dans le Dakota nous livre ses premiers secrets. Sa découverte en 2004 était restée secrète jusqu'à aujourd'hui pour éviter les pillages. Et bien la semaine dernière, les chercheurs ont enfin brisé l'omerta. Ils estiment à plus de 100 000 le nombre d'os d'animaux enfouis à l'intérieur. Les squelettes datent de la fin du paléolithique et vont permettre aux scientifiques d'en savoir plus sur la faune, mais également sur le climat de l'époque. Et puis pour finir, la Société américaine de chimie nous explique enfin la mystérieuse odeur que dégagent les chiens mouillés. Le caractère gras et huileux de la peau du chien en fait un habitat parfait pour des milliers de bactéries et de levures, un véritable écosystème. Ajoutez-y de l'eau et voici que de nombreuses molécules odorantes qui se dissolvent à l'intérieur et deviennent perceptibles sont là. La meilleure solution pour éviter les désagréments reste le bain une fois toutes les 2 semaines pour nos amis les chiens. Allez, à la disparition des langues, c'est le dossier de la tête au carré dans un instant.
Sexy motherfucker. We're all alone in a villa on the Riviera. Got some friends on the south side in case you cared. Out of all of your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things so you'll be the mostest. When it comes to life, to be this man's wife, you got to be well educated on the subject of fights. I mean the prevention.
mention of. In other words, it's R.E.M., meaning of this thing called love. Are you up on this? If so, then you can get up off a hug and a kiss. Come here, baby. Yeah.
You sexy motherfucker.
Come here, baby. Yeah.
You sexy motherfucker.
We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love, being in charge of this life and the next. While all the cosmic talk, I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Come here, baby. Yeah.
You sexy motherfucker.
Come here, baby. Yeah.
You sexy motherfucker.
Horn, stand up, please.
C'est la voix de Prince à l'instant sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Des linguistes de terrain pour parler de la disparition des langues, dossier de la tête au carré donc cet après-midi avec Colette Greenwald, Claude Agege et Nicolas Tournadre. Colette Greenwald, vous êtes professeur émérite des universités à l'université Lyon 2. Claude Agege, vous êtes professeur au Collège de France et vous venez entre autres de publier « C'est quoi le langage ?», un dialogue avec un jeune collégien aux éditions de l'Aube. Et puis enfin Nicolas Tournadre, vous êtes professeur à l'université d'Aix-Marseille et membre du LACITO, c'est le laboratoire des langues et civilisations à tradition orale, laboratoire CNRS. Et vous avez publié cette année le Prisme des langues, dont on a parlé à deux reprises dans l'émission, aux éditions de l'Asiatech. Messages et courriels des auditeurs sur franceinter.fr. Colette Greenwald, c'est une rencontre historique là, qu'on est en train de vivre tous ensemble autour du micro, c'est ça? Parce que vous vous connaissez très bien, c'est la première fois qu'on vous retrouve ensemble pour une émission de radio?
Oui, oui. Moi j'avais plutôt une relation avec Claude Agege depuis les années 80 et j'avais entendu parler de Nicolas Tournadre. Voilà, je suis très très contente que trois linguistes français soient à la tête au carré et parler de linguistique de terrain.
Claude Agege, c'est votre élève que vous avez à votre gauche? Nicolas Tournadre.
C'est un collègue.
Ah oui.
C'est quelqu'un avec qui, au lieu de dire que c'est mon élève, c'est quelqu'un avec qui j'entretiens depuis longtemps un dialogue.
Oui. Nicolas Tournadre, au départ, c'est d'abord le directeur de votre thèse.
C'est mon directeur de DEA, mon directeur de thèse.
Oui.
Et on ne s'est pas quitté depuis une trentaine d'années.
On va donc parler avec vous principalement de la disparition des langues et puis également de votre travail de terrain, parce que ça nous intéresse de savoir comment justement vous travaillez au plus près des personnes que vous rencontrez. Colette Greenwald, comment vous est venu cet intérêt pour les langues au départ?
J'ai grandi dans un milieu multilingue, donc le fait qu'il y avait des langues autour de moi me semblait naturel. Je viens d'Alger, on entendait de l'arabe, de l'espagnol, du français, et mon père était professeur d'allemand et parlait souvent l'allemand devant moi. Et c'était dans l'atmosphère.
C'est ça.
Et après, j'ai fait une licence d'espagnol pour devenir professeur de lycée d'espagnol, parce que cette langue me fascinait. Et le professeur Bernard Potier, dans un cours de grammaire de l'espagnol, s'est mis à comparer l'espagnol avec le quechua et le guarani. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il restait encore des langues amérindiennes vivantes.
Oui.
J'avais l'impression que tout avait disparu avec la colonisation. Et j'étais fascinée par les exemples qu'il donnait, Et là, voilà, à licence Nanterre 68, j'ai décidé que j'allais vers l'Amérique latine voir ces langues, écouter ces langues.
Claude Agege, dans ce livre, justement, c'est quoi le langage, avec ce collégien avec lequel vous dialoguez, vous lui expliquez que cette passion des langues vous est tombée dessus par hasard, mais quand même assez tôt, hein, dès l'enfance. Là aussi, il y a eu une musicalité qui a joué incontestablement.
Oui, l'élément de musicalité avait une importance considérable, mais c'était généralement, contrairement à Colette, mon milieu familial n'était pas spécialement polyglotte. En revanche, mon milieu social l'était. Étant né à Carthage, banlieue de Tunis, autrefois quand Flaubert est venu pour écrire ça dans Beau, c'était Tunis qui était une banlieue de Carthage. J'ai suivi dans un port méditerranéen, par conséquent exposé à d'innombrables influences linguistiques avec des communautés de langues. Pour ne citer que deux langues sémitiques importantes que je pratique depuis l'enfance, elles ont toutes les deux déjà deux visages. Il y avait l'hébreu de ma bar mitzvah qui était l'hébreu biblique pour lire la Bible, et il y avait l'hébreu israélien qui commençait de naître, dont on commençait de parler. Et puis pour l'arabe, il y avait l'arabe dialectal tunisien, celui de mon pays natal, et il y avait l'arabe littéraire qui a toujours comme langue unique que personne ne parle mais que les gens cultivés utilisent pour la lecture, pour l'entretien, et qui est en principe, selon le degré d'étude des gens, plus ou moins répandu parmi les communautés. Donc je finis dans un milieu hyper babélisé, et par conséquent, si je suis devenu ce que je suis, c'est-à-dire un homme habité, car je suis un homme habité, habité de quelque chose, de l'amour des langues. On peut être habité si on est menuisier par l'amour de la menuiserie, si on est boxeur par l'amour de la boxe ou du football. Chacun son habitation, la mienne ce sont les langues. Depuis l'enfance, ça a été motivé, en partie mais pas seulement. Il y a aussi tout de même des éléments, laissez-moi préserver mon jardin secret, des éléments mystérieux dans une vocation. Des éléments analysables comme cohérents, ce sont des éléments de hyper-babélisation de mon milieu, non pas natal mais social.
Bon, on va respecter ce jardin secret. Alors, Nicolas Tournadre, en l'occurrence en ce qui vous concerne.
Alors moi je suis né à Paris, donc c'est aussi Babel hein, d'une certaine façon. Mais pas, c'est pas, je suis le seul à pas être né en Afrique du Nord. Et je dirais que comme élément déterminant, dans mon milieu familial, absolument pas, je n'entendais pas d'autres langues que le français, même si il y avait d'autres langues connues. Mais c'est deux choses, la musicalité. La musique est très 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 tôt. Vers 6-7 ans, j'étais totalement fasciné par les sons. Et d'autre part, il y avait aussi le caractère visuel et je dessinais des idéogrammes très tôt. Et j'ai appris que Claude Agege faisait la même chose. Donc ça, c'est une coïncidence. Donc, fascination. Je pense que les sons, ça a été déterminant. Mais il y avait quand même aussi la beauté scripturale. Ça m'a attiré. Et très, très tôt. Et puis, après, je suis revenu aux idéogrammes bien plus tard. À cause du Tibet, où je me suis intéressé évidemment aux civilisations qui étaient à côté, c'est-à-dire la Chine d'un côté, puisque les Tibétains, cet énorme territoire de 4 fois la France, sont entre la Chine et l'Inde, donc deux énormes civilisations, et ils ont bénéficié évidemment des deux.
Claude Agege, les idéogrammes chinois vous ont fasciné très tôt, dès l'âge de 5 ans, je crois.
C'est mon premier contact. Dans une librairie de Tunis, où j'ai vu les idéogrammes chinois, j'avais 6 ans, pas 5 ans tout de même. Et j'ai demandé à mes parents d'acheter l'ouvrage. Mes parents ont consulté, par prudence et gentiment, un psychologue qui leur a dit « Votre enfant est normal, c'est simplement un enfant fou des langues. » Et je pourrais encore le dire. Laissez-moi juste, j'ai répondu à votre question un peu rapidement, mais laissez-moi juste ajouter en codicie à ce que vient de dire ce cher Nicolas, à propos de la fascination des langues pour ce qu'on entend des langues. Eh bien, moi j'ai une langue, quand on me demande quelle est votre langue préférée, j'adore toutes les langues, mais tout de même, je suis comme tout le monde, j'ai mes faiblesses d'être humain, j'ai quelques préférences. Il y a une langue dont je ne suis pas spécialiste, que j'ai étudié, bon, parmi d'autres, mais je ne suis pas slaviste, mais qui, à mon oreille, est la plus belle du monde. C'est locutrice quand elles sont belles. Les femmes russes sont aussi parmi les plus belles femmes du monde. Pardonnez-moi cette petite galéjade.
Mais elle est d'importance.
Et il y a peu, le hasard a fait que je suis tombé face à un extraordinaire poème dont je vous demande de me laisser réciter deux premiers vers. Un poème de Flett, Anafasivich Flett, Shan Shin. Et ce poème dit ceci. Как тяжело ходить среди людей и притворяться непогибшим, и обряде трагической жизни соответствовать еще нежившим. Comme c'est difficile de marcher parmi les gens et de faire semblant qu'on n'est pas mort et de parler à ceux qui sont encore vivants des horreurs qu'on a vécues et qui vous mettent dans l'agonie. Ces simples vers russes me semblent être parmi ce qu'on peut entendre de plus beau.
Qu'est-ce qui vous touche autant dans la musicalité, outre, évidemment, on l'a compris, le charme de la locutrice, Claude Agege?
Les deux sont inséparables. Bon. Ce qui me touche le plus, je dois dire, en ce qui concerne le russe, dont je répète que je ne suis pas du tout spécialiste, mais qui m'habite depuis l'enfance, bien que je n'ai pas du tout fait d'études de russe particulière. Comme tout linguiste, je dis le russe parce que la plupart des linguistes lisent la plupart des langues, évidemment, ce serait une honte sinon. Bon. Mais je dis dans le cas du russe, qui me plaît plus particulièrement, ce qui me fascine, du point de vue auditif, j'entends, acoustique même, eh bien, c'est le mélange de l'extrême douceur des voyelles et de la rudesse des consonnes. Pas gipchim. Sredit, radit, sredit, liudjei. À la fois, rudesse des consonnes, des re, des che, des que, et musicalité des diphtongues et des voyelles, liudjei. Radit. C'est ça qui me fascine.
Oui. Et ça, c'est une langue qui n'est pas en voie de disparition. Donc vous aurez le bonheur de pouvoir l'entendre.
Non seulement on n'est pas en voie de disparition, mais vous savez peut-être que depuis la dislocation de l'Union soviétique, les pays baltes, qui ont toujours détesté la Russie et qui ont été, il faut le dire, contre leur gré rattachés en 1939, ainsi que l'Ukraine et la Moldavie, ont connu une époque de désaffection. Mais aujourd'hui, l'importance du russe comme langue régionale, elle n'est pas du tout discutée dans les cinq républiques musulmanes des centrales, l'Ouzbékistan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Turkménistan et Turkménistan. Bon. Mais en revanche, dans les pays de l'Ouest, et limitrophe de l'Europe, où elle est discutée, elle revient en force. Pourquoi ? Parce que le russe, sans avoir l'audience immense de l'anglais, et dans une large mesure de l'espagnol et du français comme langue internationale d'aujourd'hui, a une immense audience comme langue régionale, depuis Brest-Litovsk jusqu'à Khabarovsk et Vladivostok, c'est-à-dire aux sources de l'amour.
Oui. Collègue Greenwald, est-ce que vous, en tant que linguiste, vous aimez justement toutes les langues, ou est-ce que vous entretenez avec certaines d'entre elles des relations conflictuelles ?
D'abord, je voudrais dire, en écho à ce que vient de dire Claude Agege, que moi, ça n'est pas tant la musicalité et les sons qui m'intéressent. Moi, ce qui me fascine, c'est la structure des langues. Qu'on puisse dire la même chose avec une grammaire différente. Moi, je suis fascinée par la grammaire que j'ai appelée quand j'étais étudiante à MIT, qui faisait de la grammaire, de la syntaxe, il se sentait très fort. J'ai dit, nous, on est des plombiers de la langue. Je cherche la structure interne de la langue qu'on n'entend pas, justement, et qui est là, qui est toujours une structure très complexe. Donc moi, je cherche surtout le mystère de comment on assemble les mots pour dire les choses.
Ça, c'est intéressant. Vous permettez d'intervenir ?
Bien sûr.
Parce que précisément, autant j'écoute avec ravissement ce que dit cette chère Colette, autant je ne partage pas son point de vue, parce que précisément, alors que la phonétique est extrêmement variable, quand vous entendez du chinois, du russe que je viens de débiter, de l'arabe, etc., vous avez l'impression d'une extraordinaire diversité de sons. En revanche, la façon dont les langues construisent les phrases contient de très grandes similitudes et de très fortes homologies. Les langues se distinguent, à mon oreille, beaucoup moins sur ce plan, car pour agencer ensemble les mots d'une phrase, il faut bien que l'on ait, peut-être pas un sujet, un verbe et un complément, comme le racontait le vieux grammairien, mais un certain nombre d'éléments mis en relation syntaxique entre eux, et ça, toutes les langues le possèdent à des degrés divers.
Ah, c'est un point de discorde apparemment, hein, Colette Greenwald.
C'est un des nombreux points de discorde.
Mais c'est pour ça, mais c'est bien de pouvoir en parler, au moins ensemble. Vous avez justement des points de discorde avec certaines langues, vous-même ou pas ?
Oui, vous avez dû lire de mes écrits. Oui, j'ai été élevée dans une maison où le père parlait l'allemand. Je n'ai jamais appris l'allemand, mais j'ai appris l'espagnol comme si c'était mon autre langue. Et chaque fois que je rencontre l'allemand, je suis un peu interloquée. Par contre, je n'ai pas eu de problème à apprendre à parler le Racaltec Maya du Guatemala.
Nicolas Tournardre, Salomé qui nous écrit sur franceinter.fr. Quel conseil donner à un jeune étudiant en sciences du langage qui souhaite faire de la linguistique de terrain ? Il faut l'encourager absolument, là.
Oui, il y a plusieurs labos en France qui font de la linguistique de terrain. Il y a mon labo CNRS, le Lacito, le DDL à Lyon, le DDL où travaille Colette Greenwald, et il y a plusieurs masters aussi. À Aix-Marseille, nous avons un master de linguistique du terrain, donc il faut absolument se mettre en contact avec nous.
Et puis il faut aller sur le terrain aussi tout de suite.
Bien sûr, c'est la première chose.
Le plus tôt possible.
On envoie les étudiants, et souvent, j'ai une étudiante qui vient de partir au LADAC, etc. Souvent, on s'aperçoit que les premiers terrains sont essentiels et sont déterminants parfois pour la vie entière des étudiants.
Ouais. Claude Agege, est-ce que l'anglais est une source de discorde pour vous, justement, dans votre... L'anglais, une source de discorde, justement, dans votre relation aux langues ou pas ?
Non, pas du tout. J'aime beaucoup l'anglais comme j'aime toutes les langues, ma réaction est d'amour, comme je vous le disais. En revanche, ce qui m'est un petit peu pénible, c'est sa domination mondiale et le fait surtout que beaucoup de gens, au lieu d'être sensibles à l'extraordinaire poésie de la diversité des langues, considèrent quand ils vont quelque part qu'il suffit de l'anglais et que par conséquent ils ne vont pas faire l'effort d'apprendre les langues des gens dont ils visitent les pays. Par conséquent, la suprématie de l'anglais comme langue internationale est quelque chose qui m'interroge dans la mesure où c'est une menace, non pas en soi, bien sûr l'anglais est une merveilleuse langue, mais par rapport au désir, à la motivation d'épouser la diversité.
Alors justement, Alexandre, sur Twitter, est-ce que la disparition des langues est en partie due à la mondialisation? Et puis un autre auditeur, Viron, les anglicismes qui entrent dans notre quotidien ne menacent-ils pas à long terme notre langue française? Non. Ou les autres d'ailleurs?
Non. Les anglicismes ne peuvent pas être une menace à condition qu'on ne dépasse pas un seuil d'indigestion.
Oui.
Toutes les langues vivent d'emprunt.
Comment on l'évalue, ce seuil d'indigestion?
Eh bien, je peux l'évaluer dans le cas du français, ou de l'espagnol, ou d'autres langues qui empruntent à l'anglais, ou de l'allemand, c'est 15 à 20%. Quand une langue dépasse 20% d'emprunt, alors on peut considérer qu'il y a une certaine menace, et je dirais même que, puisque nous parlons d'extinction des langues, un certain nombre de langues qui sont éteintes, qui sont mortes, ont commencé par avaler, souvent sous la contrainte, parfois par choix, un énorme vocabulaire étranger, et finalement, elles ont fini par se confondre. Cependant, il y a des contre-exemples. C'est très compliqué les langues, cher Mathieu. Il y a tout ce que l'on veut. Prenez l'arabe, prenez le turc et le persan. Le turc et le persan ont plus de 50% l'un et l'autre de mots arabes, du fait de l'islamisation de ces deux pays entre le 7e et le 10e siècle. Bon. Néanmoins, ils sont restés profondément turcs, profondément persans, avec ce pourcentage considérable de nos arabes. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du difficile à apprécier. Il y a une volonté d'exister dans le cas d'une langue altaïque comme le turc, dans le cas d'une langue indo-européenne comme le persan, et par conséquent une résistance à une masse d'emprunts qui n'ont jamais concerné que le vocabulaire, mais ni la prononciation, ni la morphologie.
Nicolas Tournardre.
Oui, à propos du persan, c'est assez extraordinaire de voir que là, maintenant, alors qu'il y a eu l'islamisation, la révolution islamique, etc., l'académie iranienne est en train d'éjecter un grand nombre de mots arabes, si vous voulez. C'est très souvent, les intellectuels iraniens sont tout, et ça serait vrai pour les Afghans ou pour les Tadjiks qui parlent des variétés de persan, sont très conscients. Ils vous disent tout de suite, ça c'est un mot d'origine arabe, etc. Et donc, ils ont une conscience aiguë.
Ils l'ont toujours fait.
Et donc, effectivement, ils ont cette résistance qui est très forte. Et ça, ça vient d'une volonté. Mais effectivement, certaines communautés décident volontairement. Je crois que Claude Agé, j'en parlais dans Altamor des langues, peuvent même décider d'abandonner volontairement une langue.
Oui. Ce message de Georgia, Colette Greenwald, les médias participent à la diminution de la diversité linguistique, nous dit-elle, en usant majoritairement de l'anglo-américain, plus de 23 langues dans l'Union européenne, et ces langues ne sont pas beaucoup entendues dans nos médias. Quand pourrez-vous participer à la diffusion plus équilibrée des différentes langues européennes? Qu'est-ce que vous souhaitez lui répondre?
Je vais profiter de cette invitation à parler pour dire qu'il y a un site internet qui s'appelle SoroSoro, sur lequel nous avons mis des centaines de langues où on entend les gens parler des langues minoritaires et autres, et que en Amérique latine maintenant, les Indiens, les indigènes utilisent de plus en plus la radio pour de l'éducation, pour donc les médias jouent dans les deux sens. Et en ce moment, dans des régions au moins comme en Amérique latine, ils deviennent très importants pour aider les langues à se développer, à être modernes.
Il y a des langues menacées en Europe ou pas?
Oui, il y a des langues menacées en Europe. Dans la région Rhône-Alpes, nous avons le franco-provençal, qui est une langue menacée. Alors, dans des proportions tout à fait différentes des langues sur lesquelles je travaille. Mais,
il y a encore beaucoup de locuteurs?
Il y a encore, des dizaines de milliers de locuteurs, mais les locuteurs ont maintenant plus de 60-70 ans et la transmission ne s'est pas faite, donc c'est une question. Donc, dans mon laboratoire, nous travaillons sur la revitalisation du franco-provençal.
Claude Agège, permettez-moi d'ajouter
quelque chose qui pourrait intéresser. Il se trouve qu'en ce moment, je suis en train de faire un article pour la presse qui m'était demandé sur la ratification qu'a demandé le président de la République de la Charte européenne des langues minoritaires et régionales. Et dans cet article, j'essaye de faire entendre une voix irénique, enfin de concorde, pas de discorde. en soutenant que ça n'est pas un immense danger, mais que cependant, il faut être sur ses gardes. Or, la plupart des puristes et des défenseurs du français considèrent que la signature de cette charte, qui fait droit aux Basques, aux Bretons, aux Alsaciens, aux Corses, à d'autres encore, aux Occitans, pouvoir tester en justice, de pouvoir demander des échanges dans les organismes publics, dans les langues régionales, est un danger considérable pour la France. Et moi, je dis ceci, je le pense, lorsque le député Barrère et l'abbé Grégoire, en 1794, rapportent à la Convention montagnarde, dont ils sont députés, des paroles assassines, la contre-révolution parle en breton, les ennemis de la République parlent en basque, les amis de l'émigration et de la monarchie parlent en occitan, la révolution est menacée par ces langues pour des raisons externes au langage et aux langues elles-mêmes. C'est que ces langues sont malheureusement celles dans lesquelles s'expriment des provinces qui sont monarchistes, antirépublicaines et catholiques. Par conséquent, s'il y a en France une tradition très violemment hostile aux langues régionales, elle se plonge dans l'histoire même de la République, la Première République, qui ne s'est pas appelée comme ça parce qu'ils croyaient qu'ils étaient éternels, mais c'est évidemment la Révolution. Et à ce moment-là, leur usage était redoutable. En revanche, aujourd'hui, c'est beaucoup moins grave. J'ai évidemment étudié de près cette charte. J'essaie de montrer que ce n'est pas un danger immense, mais puisqu'on parle de la menace sur les langues, je dirais, de façon inattendue, que certains considèrent que c'est une menace de plus, en tout cas pour le français, et pour d'autres langues d'Europe qui accepteraient de la signer. Beaucoup l'ont fait, d'autres ont refusé obstinément, dont le Portugal et l'Islande, dans la mesure où, pour ces gens, pas pour moi, permettre aux langues régionales d'avoir cette ouverture dans la vie quotidienne, juridique et administrative, c'est une menace de dislocation des langues nationales.
Allez, on se retrouve dans un instant, suite de notre discussion sur la disparition des langues et beaucoup de messages pour vous, je vous les transmets sur franceinter.fr.
Il faut me dire, on doit se dire, tu dois me dire, est-ce que tu es heureux? Alors ça fait quoi? Raconte-moi, est-ce que c'est bon d'être enfant amoureux? Toutes ces nuits, t'es mort mille fois pour vivre un jour ce moment-là. La vie quoi?
Et c'est Kali avec La Vie Quoi.
La tête au carré sur France Inter.
Voilà un plateau exceptionnel aujourd'hui avec trois linguistes de terrain réunis pour la première fois. Colette Greenwald, Claude Agege et Nicolas Tournadre. Vos messages sur franceinter.fr. Philippe nous dit ceci, comment est-ce que vous parvenez à apprendre toutes ces langues personnellement alors que je les aime beaucoup, dit-il, pour leur musicalité et leur graphisme. Ça m'est extrêmement difficile. Nicolas Tournadre.
Je pense que ça passe par une certaine... notamment une certaine empathie, une certaine curiosité de l'autre, une certaine ouverture. Mais il y a plein de raisons psychologiques et autres pour lesquelles on peut avoir envie de pénétrer ces domaines. Et puis les langues sont de véritables clés pour les cultures, pour mieux comprendre les gens.
Colette Greenwald.
Oui, je voudrais juste préciser que être linguiste n'est pas être polyglotte. On peut être polyglotte et,
c'est vrai.
Par amour, par passion et... en tant que polyglotte, devenir linguiste.
Oui.
Mais ce sont deux choses différentes. Les linguistes, en général, ne sont pas des polyglottes. Ce sont des spécialistes de l'analyse des langues.
Ce sont des cas à part, alors, vos camarades?
Oui, je ne voudrais pas que les gens pensent que tous les linguistes sont des polyglottes.
Oui.
Ce sont deux concepts différents.
Moi, n'êtes pas polyglotte vous-même?
Je ne suis que trilingue. Je suis complètement à l'aise en anglais, en français et en espagnol.
Bah, trilingue, c'est déjà polyglotte quand même.
Non, je crois que les polyglottes sont un peu des animaux de cirque. Il faut dépasser les 10, 15, 20 langues. Oui. Et après, il y a une concurrence entre les... Moi, j'étais étudiante d'un autre fameux polyglotte, Ken Hale, qui, oui, lui aussi, dont on disait qu'il parlait 50 langues, des langues amérindiennes. Oui. Et des langues australiennes.
Est-ce que vous êtes un animal de cirque, Claude Agege?
Je suis assez d'accord avec ce que dit Colette. Souvent, le grand public confond polyglotte et linguiste. On peut être un très honorable linguiste en n'ayant aucun talent pour l'apprentissage des langues, et inversement, on peut être un polyglotte qui n'a aucune idée de ce que c'est que la structure d'une langue humaine. En revanche, il y a une motivation pour aimer les langues et aimer leur acquisition quand on fait de la linguistique sans que ce soit une contrainte. Et d'autre part, il y a un point particulier pour les gens de terrain où, sinon le talent pour l'apprentissage des langues, en tout cas l'attention à base de sympathie, comme le disait à l'instant Nicolas, pour les langues, peut servir aux linguistes de terrain, c'est que quand vous soumettez à votre informateur, tu dis différemment je crois, tu ne dis pas informateur, tu emploies une autre expression.
C'est une toute autre discussion, oui, ce sont des locuteurs avec qui je travaille.
Voilà, c'est ça. Autrefois on disait informateur, moi je dis porteur, comme en russe, nasitiel, car les gens, ils portent leur langue. Quand on demande donc à l'informateur de redire une phrase qu'il vient de dire en changeant un mot ou deux afin de pénétrer dans la grammaire, la morphologie de la langue, eh bien on s'aperçoit qu'il vaut mieux avoir une certaine agilité pour pouvoir faire ce genre d'entretien. Donc sans qu'on soit polyglotte, une façon agile, une façon rapide de saisir la structure d'une phrase en la débitant, en la faisant corriger par l'informateur, c'est très important. Pour les linguistes.
Nicolas Tournadre, est-ce qu'un événement géologique comme le dernier tremblement de terre du Népal peut être à l'origine aussi de disparition de certaines langues dans ces régions que vous connaissez bien, sur lesquelles vous travaillez?
Oui, bien entendu, il y a pas mal de causes de la disparition des langues, bien sûr, les guerres, il peut y avoir des famines, il peut y avoir des tas de choses. Là, le tremblement de terre au Népal, évidemment, nous touche beaucoup. J'ai fait un dictionnaire Sherpa, et dès que le tremblement de terre a eu lieu, j'ai contacté plusieurs des informateurs de ce dictionnaire Sherpa tibétain, anglais, népali. Larpa Norbu Sherpa m'a envoyé un mail. Le mail marchait miraculeusement encore. Les villages dans lesquels j'ai travaillé sont détruits pratiquement dans le haut Kumbu, sous le massif de l'Everest. Et j'en profite pour dire qu'il y a le réseau de chercheurs sur l'Himalaya qui est très mobilisé sur cette question. Il suffit de... et il y a plusieurs années de reconstruction, c'est terrible. Il suffit, là, on peut apporter des dons au réseau recherche réseau chercheurs Népal. On peut aussi faire des dons à Mathieu, non pas Mathieu Vida,
mais non pas moi, non, je veux
Mathieu Ricard qui est très impliqué dans l'association Karuna et qui a reconstruit pas mal de villages. Et pour terminer sur la question, là, on ne sait pas. Il y a plein de langues au Népal. On ne sait pas, mais si vous voulez, il y a des langues langues qui sont, je pensais au Hayu qui a été décrit par un collègue, Boyd Mikhailovsky, il ne restait que quelques locuteurs, etc. Il peut dans certaines régions, des locuteurs très importants qui sont porteurs de langue, oui, comme disait Claude Agege, peuvent avoir été avoir disparu dans le tremblement de terre. Donc c'est vraiment terrible, ce tremblement de terre touche vraiment pas mal de pays.
Il y a ce mythe du dernier locuteur quand même, collègue Greenwald. Hein.
C'est un mythe.
La dernière personne qui parlait une langue, cette vieille femme de 94 ans qui était la dernière justement à transmettre sa langue, c'est un mythe.
C'est un mythe, c'est un statut social d'être reconnu comme le dernier locuteur ou la dernière locutrice, la personne vers laquelle les linguistes sont dirigés. Mmh. Et puis on s'aperçoit, quand cette personne disparaît, qu'il y avait d'autres gens autour qui parlaient aussi la langue, mmh, mais qui ne prenaient pas ce rôle. Et donc il y a une dynastie, il y a un article très célèbre de Nicolas Evans qui dit... The last speaker is dead. Long live the last speaker. Mmh. C'est comme les rois. On peut avoir qu'un seul roi à la fois. Et quand il meurt, eh bien, on met un autre roi. Moi, j'ai observé ça sur les terrains sur lesquels je suis. Et je crois que quand on y fait attention, on s'aperçoit que c'est un peu partout. Mmh.
Claude Agege.
À propos des causes violentes qui existent aussi, ou bien naturelles, ou bien même humaines, Je me permets de citer ce que je raconte dans Under Death and Life of Languages, Halte à la mort des langues, enfin j'ai la version anglaise ici. Je cite deux cas qui sont bien connus. L'un est humain, c'est lorsque Gengis Khan a annihilé absolument au XIIIe siècle les Sixia ou Tangut tibéto-birmans, il les a tous massacrés et par conséquent leur langue s'est éteinte. Et un autre cas qui n'est pas humain, lui, mais qui est naturel, c'est l'extinction de la langue Tambora, qui se parlait sur l'île de Simbawa, dans l'archipel indonésien, la frontière entre Sunda et Timor.
Un volcan.
Un immense, en effet, phénomène volcanique, les a tous tués, et par conséquent, leur langue s'est éteinte. Mmh. Il peut y avoir donc, indépendamment des causes beaucoup plus fréquentes, évidemment, que mes collègues et amis viennent d'analyser,
des
causes
naturelles
violentes.
Mmh. Il y a aussi une chose, quand on dit dernier locuteur, ça n'a pas vraiment de sens. Parce que d'abord, est-ce que la personne se parle à elle-même? Déjà, ça n'a pas beaucoup de sens. Eh bien, quand bien même il y aurait 4 ou 5 locuteurs, s'ils sont pas dans des relations amicales, ou s'ils sont éloignés, etc., et s'ils se parlent plus depuis longtemps parce que ils se méprisent et qu'ils n'ont pas des liens particulièrement forts, eh bien, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, là, on a affaire à des toutes petites communautés qui sont très menacées, et il est important de recueillir, mais c'est pas la peine d'attendre les derniers locuteurs.
Anne nous dit ceci, parlons des langues en péril, c'est ce qu'on attend évidemment. Jack, dans un autre message, la diversité des langues qui est en train de s'étioler n'est-elle pas à l'image de ce monde libéral où l'uniformisation est en train d'éliminer les langues minoritaires? Claude Agege, qu'est-ce qui cause le déclin d'une langue en général alors? C'est le problème de transmission avant tout?
Oui, c'est la cause principale. Puis-je revenir en arrière, cher Mathieu Vidard, très très vite, parce qu'il y a une question à laquelle peut-être celui qui l'a posée considère qu'il n'y a pas eu de réponse complète. C'était la question très simple de les gens qui sont motivés pour aller sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller sur le terrain? Bon, une chose que je voudrais dire, moi, qui est très simple, que tout le monde sait très bien, mes deux collègues en particulier, pour aller sur le terrain étudier une langue en voie d'extinction, il faut d'abord avoir une information, à savoir qu'elle est en grande menace, et il faut d'autre part avoir envie de vivre en partageant la nourriture, le mode de vie, les habitations des gens, leurs fêtes, leurs mœurs en général, et il faut par conséquent avoir une motivation humaine et affective extrêmement forte.
Tout ça sur un temps long, a priori, tout ça sur un temps long, ce travail de terrain, il est long, il faut passer du temps justement avec ces personnes.
Je ne sais pas comment font mes collègues et amis, moi j'ai toujours procédé de la manière suivante. Un premier séjour plutôt bref, suivi de séjours, deuxième, troisième et quatrième, beaucoup plus long.
Peut-être, là, sur ce point, peut-être avec Colette, on a un peu eu cette tendance. Lorsque je suis allé pour la première fois, j'étais à l'époque en 85 étudiant avec Claude Agege, je suis allé au Tibet, je pensais, comme tout le monde à l'époque, qu'il y avait une langue tibétaine qui était parlée au Tibet, et maintenant on en est à 50 langues, 200 dialectes parlés sur 6 pays, donc du Pakistan à la Birmanie, en passant par le Népal, le Bhoutan, etc. Et donc, c'est en retournant et en découvrant ces langues dont certaines, on ne connaissait que le nom, et j'ai décrit récemment le Chochanga Chakao, une langue du Bhoutan oriental absolument inconnue, pas décrite, l'été dernier, et comme l'a dit Claude, il fallait effectivement manger du piment et du riz tous les jours, parce que c'est la seule façon dont on peut vraiment pénétrer, c'est être en accord avec la culture locale et s'imbiber vraiment. Et c'est en étant sur le terrain et en revenant que j'ai pris conscience de cette diversité extrême.
Mais collègue Greenwald, on vous envoie en mission de sauvetage parfois sur le terrain pour tenter vraiment de sauver une langue qui est en train de disparaître là sous vos yeux ?
C'est un cas particulier, mais dans le cas du projet Rama du Nicaragua, j'ai été effectivement envoyée par le gouvernement pour aller parler à ces indigènes qui ne parlaient pas l'espagnol. C'était au Nicaragua pendant la guerre des Contras.
Oui.
Ces Ramas parlent un créole anglais. Et dans un mouvement d'autonomie de la région, pour donner l'autonomie à la région, ils allaient reconnaître toutes les langues indigènes de la région. Or, les Ramas avaient perdu leur langue et ont demandé qu'on vienne les aider à retrouver leur langue.
C'était le cas ? Vous avez
réussi. Je pense que en 30 ans, on a changé vraiment l'attitude par rapport à cette langue.
Donc, vous avez sauvé cette langue.
J'ai documenté la langue. Je voudrais dire que dans le monde de la linguistique, on a créé une sous-discipline sur les langues en danger et qu'il y a eu énormément de travail sur que peuvent faire les linguistes par rapport à ce problème de perte de langue. On parle de documentation de langues en danger. On parle de combien elle peut servir à de la revitalisation. C'est une discipline qui s'est formée et avec des institutions, avec des grandes fondations qui ont financé dans les 15 dernières années énormément de travail de terrain.
Claude Agege.
Sur les causes de l'extinction, tout à l'heure vous m'interrogez, il y a d'abord les causes violentes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont naturelles ou humaines, massacres ou catastrophes naturelles, et puis il y a des causes internes. Malheureusement, pour le linguiste en particulier, qui vient pour étudier une langue sur le terrain, une langue tribale ou une langue régionale, dont il s'éprend par définition, sinon ce ne serait pas la peine qu'il vienne, les gens souvent ne veulent pas continuer à parler leur langue. Il y a le défaut de transmission qui est une cause essentielle d'extinction. Il y a aussi des réunions au cours desquelles on prend la décision que l'on va adopter une langue de prestige. Les Yaku, par exemple, du Kenya, ont décidé à un certain moment qu'ils ne parleraient plus en Yaku, qu'ils prendraient le Swahili et d'autres langues nilotiques. Bon, et puis il y a autre chose aussi, c'est l'école. Nous savons que pour l'Australie, le Canada, les États-Unis, on a arraché à leur famille, on voulait aboutir à l'extinction des langues indiennes au bénéfice de l'anglais, bon, dans les trois cas. On a arraché leur famille des enfants, on les a mis dans des pensionnats de type carcéral, en évitant le plus possible qu'ils reviennent aux vacances même, revoir leur famille. Ils étaient punis gravement ou humiliés lorsqu'ils se servaient de l'anglais, un petit peu comme on le raconte pour certaines langues régionales de France, la ridiculisation de ceux qui servaient encore du breton, de l'occitan ou du basque. Et par conséquent, on a réussi à extirper les langues nationales de ces enfants. Les enfants, c'est capital, ce sont eux qui vont transmettre plus tard quand ils sont adultes. Et en les extirpant, on a ajouté une cause de plus aux causes d'extinction des langues.
Nicolas Tournadre.
Oui, il y a une chose dont on ne va pas parler, et c'est fort dommage, mais il faut nous réinviter à une autre émission.
Avec grand plaisir.
Je crois qu'on est prêt. C'est les raisons finalement pour lesquelles on a de s'attrister considérablement de la perte, de la disparition de ces langues et ces familles. Et je voudrais juste citer un point. Il y a des tas de choses dans la grammaire de langue qui nous forcent à faire attention à des points extrêmement particuliers. Par exemple, à la source d'information dans certaines langues, on appelle ça l'évidentialité. Il y a même des choses très bizarres. Par exemple, dans certaines langues, il y a un démonstratif auditif. Dans une langue qui s'appelle le Kaling, justement, du Népal, peut-être cette langue-là a été très touchée, puisqu'elle est en contact avec les Sherpas. Il y a un « ça », démonstratif « ce », qui n'est utilisé que auditivement, que pour l'auditif. C'est rarissime. Et un dernier exemple, on pensait que les langues humaines ne pouvaient pas distinguer très facilement les odeurs. Et il y a très peu de mots pour les odeurs. Eh bien, on a trouvé une langue Jahai, de chasseurs-cueilleurs parlés dans la péninsule de Malaisie, qui a énormément de mots, qui arrivent à distinguer finement. C'est donc des œnologues naturels, en quelque sorte, puisqu'ils baignent dedans. Donc ça, tout ça, on le perd, et c'est extrêmement dommage. Et donc ça, c'est le rapport entre langue et cognition, et ça, évidemment, ça nous anime tous les trois quand on fait du terrain.
Oui, Nicolas a raison. Il traite une question que vous n'avez pas posée, mais il répond à une question non posée, mais peut-être allez-vous la poser. Il vient de traiter un thème capital qui nous est cher à tous. Qu'est-ce qui est perdu quand des langues meurent ?
Absolument.
C'est de ça qu'il parle.
Ouais.
Vous aviez peut-être l'intention que...
Malheureusement, nous n'avons plus le temps, mais l'intention, c'est de vous réinviter. À l'automne, par exemple. On aura le temps d'en parler tranquillement ensemble. Colette Greenwald, 25 langues disparaissent par an à peu près, c'est ça les chiffres aujourd'hui ?
Oui, c'est un calcul.
C'est inéluctable, selon vous ?
Je pense que c'est inéluctable. Oui, oui, je pense que en même temps que les langues disparaissent, il y a un mouvement inverse de revalorisation pour que les gens n'aient pas honte de ce qu'ils parlent et qu'ils puissent être fiers de parler le rama. Les ramas ne vont pas réapprendre le rama, mais ils sont très heureux de savoir que c'est une langue, d'en savoir quelque chose. Donc la revitalisation ne veut pas dire reproduire des nouveaux locuteurs, mais reconnecter les gens avec leurs sources, avec leurs connaissances ancestrales et avec leur langue.
Merci infiniment. Encore une fois, très vite, Claude Agèche.
Nous ne parlons pas des éléments lumineux de tout ça. Il y a des langues qui naissent aussi, il y en a beaucoup moins.
Mais c'est ça.
Mais d'abord les langues créoles.
Elles sont moins nombreuses.
Et puis il y a une langue, la seule, c'est l'hébreu israélien. Depuis 2000 ans, il était mort en tant que langue parlée.
Vous reviendrez, c'est promis, parce qu'on a envie d'aller plus loin dans la discussion, et c'est extrêmement frustrant, mais c'est bon aussi la frustration. Merci beaucoup à tous les trois. C'est quoi le langage aux éditions de l'Aube, Claude Agèche, le prisme des langues aux éditions de l'Asiatèque pour Nicolas Tournadre, et puis Colette Greenval, on peut renvoyer vers ce livre, Fait de langue aux éditions FDL.
Et le titre,
Linguistique de terrain sur langue en danger. Bonjour Fabrice Drouel, on est très en retard, je suis désolé.
Ah bon ?
Oui, très.
Le jour où la France est passée à deux doigts de la catastrophe nucléaire majeure centrale de Blaye en 1999, c'est le sujet de l'émission avec deux invités, Charlotte Mijon du réseau Sortir du nucléaire et Thierry Charles, directeur général adjoint de l'IRSN.
À tout à l'heure.